La Petite Radio.
Bonjour à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio. Alors bon, je suis un peu perturbée parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas Tiffen avec moi, malheureusement. C'est la première fois depuis le début de La Petite Radio, mais nous avons une invitée spéciale, Mila, qui est venue avec sa maman, Charlotte.
Bonjour, voilà, on est là, on va essayer de se porter bien, d'être assez calme.
Première invitée.
Mais il y aura peut-être des bruits de bébé.
Bonjour à tous.
Bonjour Gabriel.
On procédera à une interview de bébé aujourd'hui en direct.
On aura des gazouilles, mais c'est mignon.
Une grosse pensée pour Tiffen, ça va être dur de remplacer l'humour.
C'est vrai, on va essayer de changer de
Tiffenois, dirons-nous.
On va essayer, la barre est haute. Comme ça, attends. Happy Nowruz.
Ah, bah
Happy
merci.
C'est vrai.
Alors, nous sommes le 20 mars, c'est vrai. C'est le nouvel an iranien, en fait, nouvel an persan. Donc, il y a toute une tradition, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le Hafsin. Il faut préparer une table, dresser une table avec des symboles très importants. Il y en a 7, hein, et c'est des choses qui commencent par la lettre S en persan. Voilà, Barack Obama adressait ses vœux chaque année en tant que président.
Regretter Barack.
Voilà, je le regrette hein, parce qu'on avait nos vœux donc au peuple iranien. Mais voilà, je ne pense pas que Donald Trump fasse la même chose. C'est pas grave, mais en tout cas, voilà. Très bonne année.
Happy Nowruz.
Très bonne année à tout le monde.
Et en particulier à tous les Iraniens.
Voilà, à mes parents que j'embrasse aussi et à mes amis.
Sinon, c'est la journée du bonheur aussi. La
ah, mais dis donc, mais.
Ah, mais ouais.
Lundi, bon,
aujourd'hui, c'est dingue ça.
C'est pas banal ça.
Et vous savez d'où vient la journée du bonheur? Comment ça a commencé?
Non.
Je serais tenté de répondre David Laroche, mais.
Non. C'est grâce au Bhoutan, un tout petit pays en fait dans l'Himalaya, qui porte plus importance au bonheur de son peuple en fait qu'au produit national brut ou aux richesses qu'ils peuvent accumuler. Donc ils ont un ministère du bonheur. Voilà, donc l'ONU, c'est un peu... Nations Unies, pas l'ONU.
Ouais, j'avais entendu parler.
Ça le fait, sur le CV de maître, je travaille au ministère du bonheur.
Je suis ministre du bonheur.
Ministre du bonheur,
ça fait penser à autre chose. Maintenant, on embauche dans les entreprises des personnes qui sont censées justement s'occuper de ça dans les organisations.
Bah, c'est pas mal. Et en fait, voilà, le but de cette journée, bon, non seulement c'est de passer une bonne journée, d'être heureux, mais de rappeler aussi que... le bonheur, ça devrait être un des objectifs de toutes les entités, les gouvernements, les entreprises, voilà.
C'est un écho auprès de ta fille quand tu parles de ça, tu vois.
Elle participe, tu vois, là, son avis déjà.
Voilà. C'est pas seulement le nouvel an des Iraniens, c'est également une journée importante pour pour la terre entière.
Voilà. Exactement.
Soyons heureux, quoi.
Continuons à être heureux.
Donc, je signale qu'on a reçu le chèque de David Laroche également.
Un très gros chèque, merci David. Hein. Notre compte est rempli.
D'aller régulièrement au restaurant désormais.
Non, parce qu'1,5 million de dollars, c'est pas mal quand même.
Pour cette année.
Alors, pour ce 14e épisode, déjà, on avait envie de vous parler du syndrome ou du complexe de Peter Pan. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une angoisse liée à l'idée de devenir adulte et le désir de vouloir rester enfant.
Ah oui.
Alors, il y a une phrase qui résume bien, c'est un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. C'est un peu ça. Alors, certains adultes, alors apparemment ça touche plus souvent les hommes que les femmes.
Paraît-il,
refusent de grandir et préfèrent vivre bercés par la douceur du monde de l'enfance, en fait. Et ces personnes-là vivent, en fait, tout le temps en contradiction entre les deux mondes. Est-ce que c'est défini comme une maladie mentale, Gabriel?
Alors là, c'est l'avis du psy. Alors, je dirais que la question de vouloir rester enfant, ça participe de quelque chose d'un peu normal chez tout le monde. Hein. Je n'aurais pas tendance, en première analyse, à le pathologiser comme ça. Mais il me semble que... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'enfant en soi, comme dirait l'analyse transactionnelle, hein, qui définit qu'il y a un moi enfant, un moi adulte, et l'autre, j'ai oublié, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup, l'analyse transactionnelle.
Il semble que si chacun
s'écoute un peu, il va bien trouver l'enfant en lui-même.
Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que le syndrome de Peter Pan, c'est plus donc, un mode de fonctionnement, un trouble du comportement, en fait, lié à la petite enfance. Hein, donc... souvent, enfin tu me corriges si c'est faux, mais souvent lié à un père absent, ou enfin un manque d'amour en fait dans l'enfance, père absent ou un père difficile. Alors c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence, le syndrome de Peter Pan, mais plutôt donc c'est lié aux émotions qui restent au stade de l'enfance. Alors comment ça se traduit en fait? Quelqu'un qui est atteint de syndrome de Peter Pan va par exemple achat compulsif de jeux vidéo, non c'est ça, enfin il va il reste un peu dans son monde imaginaire, il reste enfant quoi en fait.
Techniquement, sans trop faire l'intelligent et pousser les auditeurs vers la psychanalyse, je dirais que c'est un castration. castration qui n'est pas intégrée chez la personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la castration? Pour le dire en d'autres mots, la limite, en gros, pas de limite. Mais je répète, on vit dans une société qui pousse aux nos limites et on a eu avant le complexe de Peter Pan tout ce qu'on a appelé les adolescents, c'est-à-dire ces adultes, plutôt ces adolescents qui ne veulent pas grandir.
Enfin, vous voyez bien qui ont raté l'adolescence, en voilà, fait, qui sont passés de l'enfance à l'âge adulte
directement, ouais. et qui aujourd'hui ont des vrais comportements d'adolescents à 40, 50 ans. Il y a même la publicité surf là-dessus, en prenant en photo la mère et la fille, vous voyez que ça ne concerne pas seulement les hommes, habillés de la même façon, hein, c'est-à-dire qu'on a, on se demande où est la différence, non pas des sexes, mais des générations dans cette circonstance.
Alors moi je trouve qu'il y a une personne qui illustrait très bien en fait le syndrome de Peter Pan, mondialement connu, qui n'est plus de ce monde.
Et à son âme.
C'est vrai. Roi de la pop.
Ah, j'ai nommé Bambi, me semble-t-il.
Ouais, ça. Michael Jackson. Alors lui, bon, pour la petite histoire, il avait acheté un ranch en Californie, dans le comté de Santa Barbara.
Alors ça me rappelle une série, ça.
Donc il a acheté ce ranch en 1988. Donc c'est un domaine qui fait juste 2700 hectares. Bon, un petit ranch, quoi.
Normal, quoi.
Normal. Un petit truc. Une petite ferme. Et donc il a appelé ça Neverland. Donc pays imaginaire. Donc en référence au film de Peter Pan, le film de Walt Disney. Et en fait, il avait tout prévu, donc il a créé un parc d'attractions, toboggan géant, enfin tout ça, cinéma, des montagnes russes, tout ça. Et il invitait souvent des enfants dans son ranch. Bon, on va pas parler de la polémique, enfin tout ce qu'il y a eu autour de ça.
Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu polémique quand même.
Ouais, après, très, il y a eu de grosses vagues là-dessus. Voilà, je voulais pas parler de ça spécialement, mais Michael Jackson disait en interview que justement, lui, il se sentait Peter Pan dans son cœur en fait. Il a jamais caché ça. Et il a gardé en fait son âme d'enfant jusqu'à sa mort, jusqu'à l'âge de 50 ans. Ouais. Et je trouve que lui, il illustrait bien ça.
Ouais.
Et ça a été nommé après lui en fait. On appelait ça le syndrome de Peter Pan à grâce ou à cause de Michael Jackson.
Alors Dan Quillet. Comment
Dan Quillet, un psychiatre américain. Voilà. En 1983.
Bravo.
T'as vu, j'ai bossé.
Il a popularisé effectivement cette notion.
Vas-y,
dis-moi.
Ouais, bah il a décrit en fait les symptômes de Peter Pan. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a 7 en fait.
Toujours 7, hein. Je remarque que c'est souvent à coup de 7. 7 symptômes, tu les as pris.
Ouais, je les ai. Alors, premier symptôme, incapacité à exprimer les émotions ressenties.
Alors ça, non, c'est intéressant. C'est parfois nécessaire de ne pas exprimer ses émotions. Mais...
J'avais envie de rebondir plus tard. Si jamais vous vouliez me poser la question, moi, la jeunette du groupe, qu'est-ce que ça veut dire se sentir ou être adulte?
Toi, la jeunette du groupe, qu'est-ce que ça veut dire se sentir jeunette ou adulte?
Bah non, que justement c'est ça pour moi, être adulte, c'est pas forcément gérer sa maison, payer ses factures, tout ça, sinon savoir gérer un peu ses émotions, être maître de soi-même.
Ouais, bah ça c'est lié aussi à la maturité, quoi.
Les gérer, pas les refouler, mais savoir les exprimer, les laisser sortir, voilà.
Mais ça, pour ça, il faut une maturité, on est d'accord, quand même.
Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un thème délicat, celui de réussir à se contenir, à retenir ou à transformer ses émotions. Enfin, vous savez bien, quand on les exprime pas, ça génère des maladies également.
Mais juste ça, pas retenir, justement, les vivre, quoi, les laisser...
Et puis vous savez aussi que dans un groupe, celui qui exprime trop ses émotions, il devient un peu lourd pour tout le monde.
ça c'est vrai.
Oui,
il y a des gros lourdeaux, hein, quand même.
Non, mais c'est vrai, l'expression des émotions est civilisée, hein, socialisée, disons. Après, il y a une certaine forme de les exprimer aussi. Et puis ça dépend des cultures. Hein. Dans une culture, au Japon, je dirais, on a tendance à penser qu'au Japon, on les exprime différemment, ces émotions. Donc, c'est plutôt contenu.
C'est dans la retenue.
Ça, ouais. C'est culturel.
Ouais,
c'est
ouais.
Alors que si on savait les lire comme un japonais, on verrait qu'ils s'expriment autant que nous dans les registres émotionnels.
Deuxième symptôme, c'est le rapport au temps difficile, donc procrastination, donc remettre toujours au lendemain.
C'est un mot que j'aime bien.
Charlotte, je suis désolée, mais là,
un symptôme, voilà.
Non, mais ça, c'est un mot que j'aime bien, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
Procrastination, c'est que tu remets toujours au lendemain,
à la dernière minute.
Voilà, tu remets en fait, je ferai ça plus tard. Donc, rapport au temps difficile. Troisième symptôme, difficulté à avoir des vraies amitiés.
Alors, c'est la fonction zapping.
Celui qui a atteint du syndrome de Peter Pan, ouais, apparemment, il a du mal à se lier. Et refus d'assumer ses responsabilités, évidemment.
Alors ça, le gros mot, le gros mot est lâché, responsabilité, soyons responsables.
Non, parce qu'au lieu de payer les factures, bah, ils trouvent ça beaucoup plus sympa d'être devant la console 14 heures par jour. Et désir d'être proche du père aussi, ça sert
à rien. On y revient, tu le disais dans la définition, oui.
Je reviens en arrière, mais en fait, parce que je pense que c'est cette génération, un peu la nôtre, c'est qu'on est plus dans le moment présent, tu vois, on ne veut pas penser à faire des économies pour quand
ça me rappelle un podcast.
Pour quand on est facile, millennials, mais c'est vrai, c'est la génération millennials.
Voilà.
Ouais. Alors que la génération d'avant, de nos parents, bah, c'était plus sur la sécurité, on a un boulot, on le garde. Alors qu'ici, enfin, notre génération, on surfe sur la vague.
Ouais, mais en même temps, si on revient à l'auteur qui a popularisé, et en disant popularisé, on parle de la pop psychologie, bien sûr, cette psychologie venue d'outre-Atlantique. Tous les mois, on a un nouveau concept américain de la pop psychologie. Bon, bah, celui-là, c'en était un, mais c'était des années 80 quand même, quand ça a été pondu et inventé. Donc ça collerait presque avec la naissance des. Même les millennials, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils étaient nés en quelle année ?
Après 80.
Le concept remonte d'assez longtemps. Donc, si vous voulez, quand lui l'a décrit, comme tu viens de le faire, avec les sept, je ne sais pas si tu as fini sur les sept
non,
points.
Non, il y en a deux encore.
Ça existait bien, référé à une génération qui n'était pas la nôtre. Et quand on dit la nôtre, il me semble qu'on n'est pas tout à fait de la même génération.
Non, mais dans ce cas-là, c'était plus des exceptions, quoi. C'était pas la norme comme maintenant.
Mais c'est vrai que par rapport au temps, il y a un truc qui s'est tordu avec le temps.
Ça me tombe 6 et 7, voir si je coche encore ou...
Alors, il y en a encore deux. Alors, sentiment de colère et de culpabilité envers sa maman.
Ah, la mère, toujours quand on prend plein la figure.
Maman, si tu m'écoutes, ça va.
Et dernier, troubles sexuels. Alors ça revient. Les gens atteints de syndrome de Peter Pan ont très peu d'intérêt pour le sexe.
Ah bon ? Alors
ça,
c'est
dans leur tête, ça s'explique en même temps.
Bah ouais, c'est logique.
Ça cadre pas avec Bambi, mais bon.
Non, pas.
Mais non, la polémique, on a dit non.
On a dit qu'on parlerait pas de ça. Difficile de guérir du syndrome de Peter Pan, parce que c'est une sorte de cercle vicieux en fait. C'est une incompréhension en fait du monde des adultes. Donc ce qui fait que la personne va s'isoler encore plus dans son monde imaginaire. Ce qui fait qu'il y aura encore plus un décalage entre les deux mondes et ce qui va faire monter l'angoisse.
Alors,
c'est tout un cercle...
Sans doute, comme toutes les pathologies, est un cercle vicieux, quelque chose qui tourne en rond, mais j'ai envie d'être positif puisqu'il s'agit de la journée du bonheur et de penser qu'on guérit de tout ou qu'on peut faire quelque chose de sa vie ou de ses symptômes. Et dans le cas présent, puisqu'il s'agit de Peter Pan, je crois qu'il s'agit de peut-être revenir à travers un site qui est très bien fait, celui de Céline Albin Favre, Faivre, Sœur J.M. Barry. Je crois qu'on se réfère à l'auteur du bouquin là, le petit
qui a créé en fait le héros Peter Pan.
Là, on comprend que lui-même, qui était un enfant plutôt abandonné et qui a eu besoin de s'inventer ce monde de l'enfance qu'il a fait durer, il en a fait quelque chose de plutôt utile socialement puisque tout le monde s'y réfère aujourd'hui. Il y a eu des films et un tas de choses qui ont été faites et écrites à ce sujet. Donc voilà, je pense qu'en tout cas pour l'auteur, il s'en est sorti à sa façon en socialisant son symptôme et en faisant quelque chose de culturellement accessible et partageable avec d'autres. Et si on en parle aujourd'hui, c'est pas... Je sais pas si c'est répondre à ta question, est-ce qu'on en guérit ou je sais pas. Il me semble que lui, d'une certaine façon, il s'en est guéri, entre guillemets. Enfin, il en a peut-être souffert toute sa vie, mais il en a fait quelque chose.
Mais je pense qu'en fait, les gens atteints de ça, ils ne voient pas forcément... Enfin, ils voient pas le problème parce que c'est des gens qui sont dans la masse, en fait. C'est des gens lambda, des gens normaux, en fait, qui sont pas en marge de la société. Et je pense qu'ils voient pas où est le problème. Pour eux, c'est normal, en fait.
Enfin, après, c'est pas forcément un problème de garder son âme d'enfant, si ?
Non, après...
Non,
il
y a même...
une question de...
Dis.
Bah, il faut pas être dans l'extrême non plus. Après, c'est tout est une question d'équilibre. Hein. Je trouve que c'est très bien de garder son âme d'enfant. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre en compte ses responsabilités, je pense, hein. Enfin, tu peux pas tout laisser.
C'est délicat, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, si tu payes plus tes factures, si tu fais plus ça, si tu. Voilà quoi. Imagine, t'as des enfants, tu les inscris pas à l'école parce que, bon, bah, de toute façon, ils iront un jour à l'école. Hein.
Après, sur le côté plus léger de la chose, tu vois, encore aimer les super-héros, regarder les dessins animés de quand on était plus petit.
Ah, mais ça, tout à fait. Hein,
tu vois, cette partie un peu plus légère encore de l'enfance qu'on peut garder, où. Moi, je connais des femmes adultes qui se sont fait des petits tatouages des Hello Kitty, tu vois, parce que. Voilà, ça leur. Ouais, parce que ça leur rappelle leur enfance. Parce que j'en sais rien, moi.
Non, faut pas sombrer dans l'extrême, c'est tout. Hein. Je trouve que c'est très bien d'avoir une âme d'enfant.
Mais c'est la nostalgie de l'enfance, n'est peut-être pas le syndrome de Peter Pan ou le complexe décrit par notre ami Dan Quillet. Mais effectivement, moi je crois qu'il faut cultiver un peu cette source. cette source de bonheur qui a été l'enfance pour chacun d'entre nous.
C'est,
enfin, je dis bonheur, c'est peut-être un malheur pour certains, mais en même temps,
ouais,
il me semble qu'on y puise tous quelques ressources pour le temps présent et même pour l'avenir. Mais il ne faut pas devenir l'enfant de ses enfants.
Bah voilà, en fait, c'est ça. Il faut, voilà, faut faire attention à la barrière. Si jamais le ranch, il est toujours à vendre, de Neverland, il paraît, le ranch de Michael Jackson.
À la petite ferme, c'est ça ?
À la petite ferme de 2700 hectares. En fait, il est estimé aujourd'hui à 67 millions de dollars, ce qui est un prix bradé, en fait. C'est un prix bradé parce qu'il était initialement à 100 millions de dollars. Donc, c'est un petit prix.
Facile.
Voilà, 67 millions, c'est rien. Donc, s'il y a un auditeur qui veut l'acheter, il est toujours disponible sur le marché. Autre chose sur le syndrome de Peter Pan ?
Non, voilà, j'avais ces deux sites, moi, qui peuvent intéresser les auditeurs qui veulent creuser la question. Celui de Sir J.M. Barrie, alors, comme ça s'écrit en anglais, .com, de Céline Albin Fèvre, qui est une spécialiste philosophe sur la question. Et puis, celui d'un psychanalyste, psychanalyste-paris, qui en parle pas mal, avec un article sur ce que j'ai tenté de traduire ou transcrire du côté du complexe de castration, pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse.
En tout cas, merci pour ce sujet. Merci Charlotte, merci Gabriel. Et on va lancer la première chanson.
C'est Sidoine avec La Nuit.
Encore un Bambi.
On écoute.
La nuit, si je sors, c'est pour perdre ta trace. Pour marcher rue des Dames, pour voir ce qui se cache, pour oser te dire combien je m'ennuie sous un ciel bleu, bleu uni. La nuit, si je sors, c'est pour voir la lumière, pour chercher des éclairs à grands coups de tonnerre. Je suis comme je suis, que tu me suis ou pas. Mais je ne sais pas si tu me suis toujours. La nuit, si je sors pour trouver la chaleur, aller solder ma peine dans des bras inconnus, c'est pour oser te dire les sanglots que j'étrangle, que je passe sous silence, long silence. La nuit, si je sors pour ne plus m'endormir sur des rêves d'enfant, c'est que je rêve encore. Je suis comme je suis, que tu me suis ou pas. Mais je ne sais pas si tu me suis toujours. Je suis comme je suis, tu me suis ou pas. Mais je ne sais pas si tu me suis toujours.
Bon, alors on est de retour pour la deuxième partie.
Elle rigole toute seule, je sais pas pourquoi. Non, parce que
pendant la pause musicale, Gab avait une blague en fait.
Mais... Voilà, c'est les blagues...
c'est spontané chez Gab.
Voilà, les blagues à retardement, voilà, deux heures génial. Après. Non, donc c'était moins une blague qu'une coïncidence.
Risque de pas être drôle en fait.
Je me disais, tiens, on parle de nouvel an persan et ensuite des pères absents dans le syndrome de Peter Pan. Je me suis dit, tiens, là, il y en a une bonne affaire, mais je l'ai gardée pour moi et c'est que maintenant qu'elle vient.
Tiffaine, reviens
parce que t'étais plus dans la spontanéité dans les blagues là.
Bon,
est...
deuxième
donc, alors,
partie
tu voulais
d'émission.
Nous parler d'un truc
vu sur le net. Bah ouais, en rapport parce que j'ai fait des recherches, tu vois.
Tout le monde a bossé. Hein.
En rapport avec le sujet dont on a parlé, donc les adolescents. En fait, il y a tout un phénomène. Je sais pas si vous êtes sur Instagram ou sur Twitter ou même de temps en temps sur Facebook. Il y a un mot en anglais qui c'est adulting. Donc en français, ça viendrait à dire faire l'adulte. Et donc c'est plein de gens qui mettent des photos. Voilà, j'ai fait mon dîner adulting tonight. Donc je suis en train de faire l'adulte ce soir parce que j'ai cuisiné mon dîner. Mais en fait, non, trop pas.
T'as fait ton dîner parce que bah t'as faim, voilà.
C'est ça. Voilà, mais ça illustre bien le phénomène en fait. Et en regardant un peu, en cliquant sur les hashtags donc adulting, je suis tombée sur le adulting school, donc l'école pour apprendre à être adulte. Et ça commence en avril 2017. C'est une initiative de deux Américaines qui se sont rendues compte qu'effectivement,
y a du taf.
Il y a beaucoup de boulot. On a pas mal de lacunes. Et donc c'est des petites vidéos en ligne qui proposent voilà comment gérer son budget, faire de la cuisine simple, réparer 2-3 trucs chez soi, comment gérer simplement aussi ses relations avec les autres. Donc ce que tu disais avec les amis et tout. Et voilà, je trouvais ça sympa.
C'est pas mal.
Voilà,
aux États-Unis,
aux États-Unis,
ils ont la réponse à tout. Donc, si vous avez envie de faire l'adulte, mais moi je trouve que déjà quand on dit faire l'adulte, c'est que déjà on n'est pas adulte. Enfin, c'est qu'on est encore
dans l'adulte,
Mais bon, si vous avez envie de vous y mettre, donc c'est www.adultingschool.com. Donc voilà, pour jeter un coup d'œil.
Et donc on est d'accord là, ça coïncide bien avec notre premier sujet qui.
On est d'accord.
Ses enfants, oui, c'est ça, vous êtes en train de connecter.
Non, moi, t'as pas une blague là.
Toujours sur, sans doute, elle viendra demain, mais.
Tiffaine, je t'en prie, reviens, j'en peux plus.
Non, mais je suis surpris, ces Américains sont vraiment toujours très innovants. Hein, et,
la pointe de la tendance.
Franchement, j'avais pas pensé comment faire du fric sur le syndrome de Peter Pan.
Ouvrir
une école pour apprendre à être adulte.
Joli, hein.
Alors moi, j'avais un petit coup de cœur. Hein. Je voulais parler d'un humoriste français très connu.
Ah, Gab, non ?
Gab Elmaleh.
Ah non, c'est...
Gad Elmaleh. Donc, évidemment, il remplit toutes les salles en France. On connaît le truc, il est super connu, d'origine marocaine. Donc, je le suis en ce moment particulièrement sur Instagram, sur Facebook. Alors, il me faisait déjà bien marrer avant. Mais alors là, depuis qu'il a fait sa tournée américaine, franchement, je le trouve encore beaucoup plus drôle. Et voilà, en fait, pour la petite histoire, oui, il y a 3 ans, il est parti conquérir le public américain.
La conquista de l'Amérique.
Ouais, parce qu'il s'est dit que bon, la France, ça suffit pas. Donc, il s'est dit, allez, je vais essayer de me faire une place là-bas. D'ailleurs, il en avait parlé avec son pote Jamel Debbouze, qui lui a dit, mais non, mais t'es complètement fou, mec, il n'y a personne qui te connaît là-bas, n'y va pas. Quoi. Enfin,
bonjour Jamel, en passant.
Jamel, tu nous enverras ton chèque. Et donc, en fait, en gros, il lui a déconseillé de partir parce que ça allait être le flop et que vraiment personne ne le connaît aux États-Unis. Quoi. Bon, il ne s'est pas arrêté à ça, il s'est dit, c'est pas grave, j'y vais, je tente le truc. Alors, il a commencé à faire des mini-sketchs.
En quelle langue ?
Alors, il l'a fait en anglais. Et il a été aidé, il était conseillé même par Woody Allen au début.
Waouh, ouais. Woody Allen.
Qui lui a dit, pardon, il lui a donné un conseil, Woody, si tu nous écoutes, bon, on arrête.
Woody, qui lui a dit. C'est quand même fait sa petite chef. Bref.
Qui lui a dit, je te donne un conseil, surtout ne dis pas que tu es connu en France. Ça va te porter préjudice. Ne dis pas ça, fais ton truc. Il a été beaucoup conseillé par son mentor qui est devenu son ami là, Jerry Seinfeld, qui est un humoriste américain ultra connu, donc il fait des stand-up. Les stand-up, c'est voilà, t'es seul sur scène,
Jerry
avec ton
Lewis
micro. Voilà.
Jerry Seinfeld.
Tiffaine, je t'en prie. Et donc ouais, les stand-up, c'est ça, donc t'es seul sur scène, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien, t'es seul avec ton micro et c'est 10 minutes de sketch et tu dois faire ton truc.
Ouais, en principe, il y a des petites recettes là-dessus. Il faut commencer par un peu d'autodérision. Si on est gros, il faut se moquer de soi-même. Enfin,
ouais. Ouais, ouais. Bon. C'est quand même il a quand même 20 ans de carrière derrière lui, hein, Gad.
Wow,
il a quand même du bagage. Hein.
Quand
même. Ouais, oh, quand même. Et donc voilà, une petite prise de risque. Hein. Donc il s'est lancé. Il a commencé à faire ses stand-up, machin. Donc 3 ans de tournée. Son spectacle, Oh My God.
Oh, joli,
très bien
joli,
marché.
Joli.
J'ai regardé en fait son spectacle.
Je viens de le comprendre, ça y est. Oh my god, bravo.
Donc dans ce spectacle qui est très très drôle, il se moque en fait des différences culturelles entre les deux pays, donc la France et les États-Unis. Donc c'est vrai que on est quand même différents, c'est très drôle. Donc si vous avez l'occasion, il est sur Netflix depuis janvier 2017. Donc il a signé un contrat avec Netflix de 100 millions de dollars quand même, bon, un petit contrat.
Ah ouais. Hein.
Et donc exposition sur 190 pays quand même, hein, maintenant.
C'est pas mal.
Donc le mec a réussi son coup, hein. Donc on lui a dit,
donc, Jamel,
va pas, tu vas te casser la gueule.
La prochaine fois que tu donnes tes conseils.
Le mec, il revient, là c'est bon quoi. Là il a conquis les Américains. Mon coup de cœur, c'était plus, je sais pas si vous avez vu, c'est sur les vidéos qu'il poste sur son compte Facebook.
Non.
Sur ses parents. C'est un mourir de rire.
Oh, il en fait, se moque de ses parents.
Vraiment, c'est des vidéos vraiment prises sur le vif, hein. C'est pas du tout préparé. Mais c'est tellement drôle parce que c'est tellement naturel. Bon, la dernière, c'est sa mère qui demande, qui s'adresse au président Trump. C'est une vidéo qui date d'il y a une semaine, 10 jours, hein, qui s'adresse en anglais à Donald Trump en disant « Mr. President, can you give a visa for my son to work ?»
Voilà, non, parce que c'est une question que je me posais en t'écoutant. Parce que ça fait 3 ans qu'il est en train de faire une tournée, le monsieur, là. Je me disais, il vit où ce garçon, là? Qu'est-ce qu'il fait,
il a fini, si j'ai bien compris, il a fini.
Ah, ils l'ont expulsé, ça y est, pas de papier vert, ciao.
Donc justement, il disait, et c'était très drôle, parce qu'il disait que, évidemment, il est marocain. Évidemment, il s'amuse pas à sortir son passeport marocain vert avec les grosses lettres arabes dessus.
Ouh,
ça le fait pas.
Je
là,
suppose qu'il a coupé sa barbe.
Donc, là, il l'utilise pas.
Il a fait une interview, donc ça date, je crois que ça a déjà un an et quelques, sur le Late Night Show. Donc je sais pas si vous regardez les talk shows en anglais. Très très drôle avec Seth Meyers, où justement il se moque un peu des Death Night américains. Il compare avec la culture française et voilà. C'est très très drôle. C'est en anglais. Mais comme tous nos auditeurs sont bilingues, évidemment. C'est très 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 drôle.
Non, donc, c'est vrai, il parle souvent des différences culturelles entre les deux, puis c'est très bien fait quoi. Par exemple, il demandait à un Américain où se trouve par exemple le premier supermarché, et l'Américain lui répond tu vois le Starbucks là, alors tu tournes là, après tu verras un autre Starbucks, tu tournes à gauche, et là il y aura un troisième Starbucks, là tu restes tout droit, et au quatrième Starbucks tu te rencontres, en fait il y a des Starbucks partout. Gam, si on t'emmerde, ça va?
Non, mais j'étais avec Tiffany.
J'étais avec Tiffany,
je lui demandais si on pouvait l'interviewer.
Non, c'est énorme. On enregistre, il envoie des messages à Tiffany hein, quand même. Je trouve ça énorme. Non, mais bon.
Non, elle dit non, c'est pas possible.
Ah, c'est pour qu'elle t'envoie des blagues.
Voilà, on s'est dit quand même. Voilà, vous voyez que la modernité permet d'être présent même quand on est absent.
Voilà, c'est fantastique.
Mais elle me dit lol, pas possible. Hein. BPS, DGI, quoi, ou DGTS. Bon, désolé, en fait, je lui dis désolé de t'avoir dérangé.
En réunion, tu la déranges là.
Ah non, mais c'est une réunion, tu savais
pas. Non, si elle pouvait pas venir aujourd'hui, c'est qu'elle avait un truc très important.
Non, mais c'était pour montrer aux auditeurs qu'on vérifie quand même quand les gens donnent des excuses pour pas venir.
Voilà, je trouve ça énorme.
Désolé, j'ai tapé, ça sort d'Odile.
Non, parce qu'on est en train d'enregistrer là, Gab.
Ah
voilà.
Alors, donc, Gad, voilà, il est revenu.
Mon petit coup de cœur. Non,
c'est... Bah non, mais c'est fini là du coup.
Ah bah à mon tour alors, à mon tour, parce que moi aussi je surfe sur le web, maintenant que j'ai compris qu'il y avait une rubrique vue sur le web, j'ai dit que je pouvais participer. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Je vous le dis. Ah non, surprise, il n'y a pas de place pour ça, mais on verra. Alors c'est un truc tout à fait bizarre, mais alors là ça va vous laisser, et ça va vous faire des frissons dans le dos. Alors en surfant sur le web, dans tout ce qui m'intéresse, moi qui avais voir avec l'hypnose, des séances d'hypnose, d'auto-hypnose, naninana, où je m'intéresse un peu à ça en ce moment, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle ma pire expérience paranormale.
Ouh.
Et j'ai écouté ça à 6h du matin, je vous garantis ça m'a fait des frissons dans le dos. Donc vous découvrirez pour ceux que ça intéresse.
On a fait un podcast là-dessus. Hein.
Alors le site c'est Little Amy World et c'est une jeune demoiselle, 15 minutes, ça dure 15 minutes et 18 secondes. Qui raconte qu'après une séance d'hypnose à la radio avec un certain Bob, vous connaissez Bob ?
Bob l'éponge, ouais.
Ouais, voilà. Elle est sortie de ça et c'était minuit, donc elle n'a pas pu trouver le sommeil. Et puis voilà, donc elle avait très envie d'aller auprès d'un lac où elle allait souvent. Et elle raconte comment elle va près de ce lac et que d'un coup, là, dans son champ périphérique, elle voit au pied d'un arbre quelque chose qui bouge et c'est un lutin qui apparaît. Bien et là, sûr. Elle pense très fort, j'aimerais bien voir un dragon. Elle lève la tête et à 10 mètres au-dessus d'elle, elle voit passer un dragon énorme.
En fait, c'est un film Disney, là.
Non, mais je vous garantis que son témoignage est d'une authenticité redoutable. Et elle dit, elle prévient au début, elle dit, bon, moi, je cherche à convaincre personne. Hein, je sais qu'il y a des gens qui vont me traiter de folle, etc. D'ailleurs, il y a un des commentaires qui dit, non, mais ça s'appelle de la schizophrénie, ma chère. Mais voilà ce que j'ai vu sur le web.
Ouais, bah tu écouteras notre épisode numéro 4, si je me trompe pas, et on parlait des balançoires hantées. Parce que moi, j'y crois à cette
truc. Ah, voilà. J'étais sûr. J'allais toucher beaucoup d'auditeurs avec ça, mais j'imaginais pas que Dorsa allait réagir comme ça. Ah non, mais j'en ai parlé à d'autres, notamment à celles qui partagent ma vie depuis 20 attends, déjà, elle m'a dit non, ne parle pas de ça. Regarde, comme il y a des gens qui bloguent aussi là-dessus.
Toi, t'y crois, toi ?
Le paranormal, la parapsychologie.
Bah, tellement que je préfère ne pas le savoir.
Waouh,
si
wow, excusez-moi. Alors, moi qui suis en dialogue avec la folie de certains patients et qui m'intéresse à tout ce qui n'est pas conscient, c'est un domaine qu'on ne peut pas éviter quand on est psychologue. Tout ce que... Parce que quand les gens te parlent, des fois, tu te dis mais c'est du lard ou du cochon ? Est-ce qu'il délire, il hallucine ? Ou est-ce que c'est de son point de vue vrai ?
C'est enfin, vrai. Voilà.
Mmh. Non, mais vas-y. Vu sur le web.
C'était pour la... pas donc avant de dormir.
Ouais.
Voilà.
Vaste sujet. Non, mais c'est mieux de regarder un film de Peter Pan, en fait, finalement.
Aussi, mais
ou ça... le sketch de Gad Elmaleh.
Voilà, Gad Elmaleh, plus léger, plus sympa. Alors, avant de lancer la dernière chanson, bah, on va remercier les auditeurs. Je remercie aussi Gabriel, Charlotte, qui ont été présents. Tiffaine nous a manqué. Gabriel a essayé de la remplacer.
Tant bien que mal. C'est, voilà, que la preuve est faite qu'on peut se substituer à personne.
Bah voilà, c'était un plaisir de faire ce 14e épisode déjà.
14 déjà ?
Ouais, 14. Depuis le début de la petite radio, on l'a lancé en septembre 2016. Donc voilà, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On lance la dernière chanson. C'est Indy Zara. La chanson s'appelle Un jour. C'est parti, salut à tous.
Salut, ciao, ciao.
Un jour de pluie, un jour. La Petite Radio.